Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. Pauvreté, pouvoir d'achat, emploi, la statistique à l'épreuve de la vie quotidienne. Nous sommes en compagnie de Marie-Thérèse Briand, la présidente du Rhône de l'association Le Secours Catholique, dans le cadre de l'annuel rapport de la pauvreté. Suivi de Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques, en compagnie de Thomas Fluzin, responsable territorial pour la région Aura. Et en conclusion, Martine Rérieux, céramiste, nous accueille dans son atelier à Jarniouf. Calade, le journal. Le projet de loi sur les énergies renouvelables en débat. Sale temps pour l'éolien. Face à la hausse de la demande énergétique, le développement de l'éolien sur terre et en mer est une priorité du gouvernement. Mais le Comité national de protection de la nature met en garde contre ces projets marins, dont les conséquences sur la biodiversité sont mal connues et potentiellement dévastatrices, nous rapporte Théo Tselepoglou pour le quotidien Reporter. Un objectif donc qui pourrait se traduire par l'équivalent de 7100 nouvelles éoliennes en mer pour la France. Or, si l'on connaît assez bien les conséquences de l'éolien terrestre sur la biodiversité, ce n'est pas le cas pour les éoliennes offshore, a rappelé le Comité national de protection de la nature, le CNPN, dans un rapport paru en juillet 2021. Ce rapport pointe des risques importants de collision des oiseaux et des chauves-souris avec les pales des éoliennes, entre autres. Concernant les mammifères marins, la France n'ayant pas connu l'exploitation des hydrocarbures offshore, le développement à grande échelle de l'électricité éolienne marine entraînera des perturbations et des modifications de l'habitat des mammifères marins d'une ampleur inédite pour notre pays, assure le rapport, remarquant que 9 espèces de cétacés sont exposées à des risques d'une portée inconnue. Il y a un manque de connaissances sur les enjeux liés à la biodiversité présente en mer, nous dit Geoffrey Marx, responsable du programme Énergie renouvelable et biodiversité à la Ligue pour la protection des oiseaux LPO. Pour des milliers de personnes habitant à proximité immédiate des futures éoliennes, la vie va devenir invivable, due au fait des invasions, des bruits, de l'effet stromboscopique et tous les autres, où qu'ils aillent, auront leur horizon obstrué par toutes ces machines. Parallèlement à la montée de la menace, on voit l'opposition se développer, nous dit Cédric De Queiroz pour Reporter. Elle se trouve au centre des redoutables questions posées par la crise énergétique écologique actuelle. Il est très confortable de regarder en face que notre société est dans une impasse, qu'il n'existe pas de solution technique à la crise sans fin en cours. Certains se disent que, finalement, et puisqu'il est déjà là, le nucléaire, ce n'est pas si mal. Lutter contre l'éolien ne serait pas avouer l'impasse de notre mode de vie. Pauvreté, pouvoir d'achat, emploi, la statistique à l'épreuve de la vie quotidienne. Le Secours catholique dresse annuellement un état des lieux de la pauvreté. Nous abordons la question des familles avec Marie-Thérèse Briand, la présidente de l'association du Secours catholique Rhône. Elle est jointe par téléphone.
Les personnes qui ont l'autorisation de travailler en France, souvent ont des activités. Alors ça peut être l'aide à la personne, ça peut être des activités de nettoyage, ça peut être certaines activités dans l'industrie. Hein. Parfois c'est du travail aussi à temps partiel qui n'est pas choisi, mais qui est là. Et souvent pour les femmes, on sait que c'est souvent des choses qui s'imposent un peu aux femmes, pas nécessairement parce qu'elles le veulent, mais aussi parce que l'organisation du travail est faite comme ça. Et puis il y a aussi une proportion, alors c'est assez vrai à Lyon, ça l'est peut-être un peu moins en milieu rural, ça l'est un peu moins, mais une proportion dans les accueils que nous faisons de personnes étrangères qui n'ont pas de statut et donc pas d'argent, pas de revenus, et qui représentent au niveau national, ça représente 47% des personnes reçues, donc pratiquement la moitié, hein, des personnes reçues par le Secours catholique, de gens qui sont sans droit, donc sans aucun revenu. Et ça pose un vrai problème. Alors, le Secours catholique fait partie de collectifs qui interrogent le gouvernement à ce niveau-là, parce que ça produit de l'exclusion, ça produit un espèce de chômage forcé qui est extrêmement négatif pour la famille, naturellement pour les enfants qui en font partie de ces familles. Et moi, je crois que ça contribue à entretenir un climat un peu de suspicion dans notre pays qui n'est pas bon. parce que les gens qui viennent ne sont pas des gens qui demandent à ne pas travailler et à bénéficier d'allocations, d'ailleurs, dont ils ne bénéficient pas s'ils n'ont pas de titre de séjour. Enfin, on est sur une question très compliquée dont l'Europe se saisit, dont ce que le Secours catholique au niveau national fait remonter, et qui a la vie dure. Et je crois qu'il crée des tas de situations très tout à fait déraisonnable et qui engendre beaucoup de malheur pour les gens qui les vivent.
Très bien. Je vous avançais un petit peu la question que je voulais terminer avec vous, Marie-Thérèse Briand, effectivement. Le constat, évidemment, parce que ce n'est pas qu'une enquête, finalement, à tirer des statistiques et faire des constats, mais peut-être aussi à préconiser de nouvelles perspectives ou de demandes auprès des autorités pour que les choses changent, ou sur quel niveau vous êtes, en fait?
Oui, alors au niveau national, et nous on est solidaires de cela, par exemple avec d'autres collectifs auxquels le Secours catholique appartient, il est demandé une revalorisation des minima sociaux. Revalorisation non pas pour dire on va assister des gens, etc. Le problème n'est pas là. La question est de dire on donne à des personnes qui n'ont pas autre chose un revenu décent pour que ces gens-là prennent leur place dans la société et se mettent à vivre une vie plus décente et à avoir d'autres perspectives, y compris dans le travail quand ils le peuvent, vous voyez. Donc, il est demandé une revalorisation des minima sociaux de 40%. Donc, ça veut dire une progression du RSA. Enfin, c'est essentiellement le RSA aujourd'hui qui est le minima social qui aide à vivre quand on n'a pas d'autres ressources. Revalorisation donc des APL, ça c'est à voir. Enfin, bon, mais ça fait partie des choses importantes aussi. Si les aides au logement ne sont pas suffisantes, on est sur quelque chose après qui devient très fragile pour les personnes. Prise en compte de l'augmentation des dépenses d'énergie, parce que il y a quelques chèques qui sont donnés, hein, vous le savez comme moi, donc il y a des chèques qui ont été distribués, d'autres qui le seront, mais on se dit qu'il faut prendre ça de façon très, très sérieuse, en tout cas dans la période de crise où on est, parce que quand arrivent les factures de régularisation, les personnes se trouvent tout à fait endettées, et parfois pour des mois, voire des années.
Le rapport annuel de la pauvreté 2022, secours-catholique.org. Citéo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Citéo met à disposition des collectivités locales des mesures d'accompagnement spécifiques destinées à soutenir les initiatives en faveur de l'augmentation de la performance du recyclage dans des conditions respectueuses de l'environnement. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie de Thomas Fluzin, il est responsable territorial chez Citéo pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors Citéo, c'est une entreprise qui a pour mission de réduire l'impact environnemental des emballages de ses clients. On va accompagner les entreprises sur la réduction en fait, du poids, du nombre de leurs emballages, les accompagner sur la recyclabilité de leurs emballages, et puis on va développer la collecte sélective des emballages en partenariat avec les collectivités locales, notamment, par exemple, comme aujourd'hui, en simplifiant le geste de tri de l'habitant. En fait, les entreprises qui mettent sur le marché les emballages ont une obligation, c'est de pourvoir à l'élimination, à la valorisation de ces emballages. Et donc, pour ça, elles ont créé Citéo. Elles financent tous les ans à hauteur de 800 millions d'euros Citéo. Et Citéo, avec ce financement, vient développer, en partenariat avec les collectivités locales, tout le dispositif de tri et de recyclage. Sur le terrain, ce sont vraiment les collectivités locales, et Citéo finance un bac de collecte, finance le camion, finance la communication, le travail des ambassadeurs, pour voilà, développer le tri et le recyclage des emballages et des papiers.
Donc un recyclage plastique, carton, papier, verre.
Et oui, dans le bac de tri, on met tous les emballages et les papiers, sauf sur certains secteurs où les papiers se trient à part. Mais dans le bac jaune, maintenant, vous pouvez mettre tous vos emballages. Tous les emballages en plastique, les bouteilles, mais également les barquettes, les pots de yaourt. Tous les emballages en carton, les petits emballages en carton. Les gros emballages en carton, elles ont plutôt en déchetterie. Et puis tous les emballages en métal, aluminium, les canettes, les boîtes de conserve.
Aujourd'hui, un véritable défi, on le sait, avec la multiplication effectivement des déchets.
Oui, aujourd'hui, on est confronté à, effectivement, depuis plusieurs années, à une une explosion des déchets. Une des solutions, c'est le tri et le recyclage, hein, pour éviter que ces déchets se retrouvent dans la poubelle grise et donc enfouis ou incinérés. Demain, il va falloir inventer des nouvelles façons de consommer, vraisemblablement, et donc on travaille d'ores et déjà sur des solutions autour du réemploi et du vrac pour réduire la production de déchets.
Alors, est-ce qu'on peut déjà entrevoir nos différents modes de façons de consommer
dans les prochaines années, déjà, recycler un maximum. Hein. Dès qu'on a un emballage, dès qu'on a un déchet, il faut qu'il y ait une solution de recyclage, de valorisation de ces déchets. Et puis, bien évidemment, réduire à la source. Hein, ça, c'est la priorité. Donc, se poser la question, quand on achète un produit, est-ce que vraiment ce produit est nécessaire? Est-ce qu'il y a une alternative? On peut louer les produits, on peut échanger des produits. Et puis, sur la partie des emballages, eh bien, effectivement, développer le réemploi, le vrac, amener son propre contenant, par exemple, au magasin, quand on va acheter de la viande ou du fromage. Et puis, au niveau de la restauration, eh bien, passer du jetable, de l'emballage unique, à l'emballage réemployable, avec, par exemple, des contenants en verre qui peuvent être réutilisés plusieurs fois.
Les déchets, c'est aussi une source d'emploi.
Oui, les déchets, alors, en France, ça crée 30 000 emplois directs. Et on le voit sur le territoire du site Réval, ce sont des emplois pour les opérations de collecte des déchets, les opérations de tri. Hein, dans les centres de tri, vous avez 40-50 personnes qui font fonctionner le centre de tri et qui sont présents également sur les chaînes de tri, une usine d'incinération également. Donc voilà, donc effectivement, autour de ces activités de tri, de valorisation, il y a de la création et c'est d'emploi et c'est de l'emploi local.
Vous l'avez dit tout à l'heure, réduire les déchets, c'est d'abord effectivement de gérer mieux sa consommation et la multiplication effectivement aujourd'hui peut-être du vrac, enfin d'autres méthodes hein, qui arrivent petit à petit doucement mais qui vont arriver. On en parlait tout à l'heure aussi de la reprise des consignes en ce qui concerne le verre. Tout ça est envisagé, hein, je crois.
Oui, finalement, on sent qu'on revient un peu aux fondamentaux finalement. On est peut-être allé un petit peu loin dans les déchets, dans l'emballage unique. On est dans une société d'hyperconsommation. Je pense que les prochaines années verront se développer peut-être des modes de consommation un peu plus vertueux. On sent qu'on a atteint quand même une limite et le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique nous y oblige. Et donc il va falloir qu'on adopte effectivement de nouvelles façons de consommer. Et voilà, le réemploi, le vrac en sont. Aujourd'hui, c'est encore un peu balbutiant. Et donc la volonté de Citeo, c'est d'investir sur ces nouvelles façons de consommer pour que chacun, où qu'il soit, et pas simplement en ville, ait une possibilité de réduire sa production de déchets en utilisant effectivement, par exemple, des emballages réutilisables.
Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques, intervient auprès du syndicat mixte Beaujolais, Dombes. Et pour conclure cette édition, nous sommes en compagnie de l'artiste céramiste Martine Mérieux qui aime aborder dans son travail de création le mariage du grès et de la porcelaine. Elle nous reçoit dans l'intimité de son atelier-galerie à Jarniou. Nous ouvrons les portes.
Depuis des années, je faisais beaucoup je fais toujours de la porcelaine avec un travail d'empreinte et d'association. Et je monte, là j'ai des colonnes, on voit bien le travail comme ça, avec ce travail de matière et de construction, en fait. C'est comme une forme d'écriture pour moi. Depuis quelque temps, je travaille le grès noir avec le contraste porcelaine, voire même mélangé avec aussi des rajouts, des choses comme ça, parce que le grès noir m'apporte le travail de matière un peu plus importante que celui de la porcelaine, qui est un travail toujours un peu plus lisse, même si je travaille l'empreinte. Et voilà, donc je suis là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est que quand on a une identité depuis des années sur un travail, c'est compliqué de trouver le regard des autres quand on change. Là, je n'ai pas changé de matière, c'est toujours de la terre, mais ça interpelle toujours beaucoup. Alors, il y en a qui aiment beaucoup, puis il y en a d'autres qui disent oh, « Pourquoi tu as lâché la porcelaine ?» En fait, je n'ai pas lâché la porcelaine, mais...
Vous avez eu, à un moment donné, besoin de
changer, oui. Parce que la porcelaine demande énormément de rigueur de travail, donc j'avais envie de changer un peu, quoi. Voilà.
Des pièces nouvelles, alors, donc, du coup, parce que
oui.
C'est un travail
là,
qui est récent.
Là, il y a des pièces là, ça, c'est nouveau voilà. Aussi. C'est des pièces que j'avais exposées qui m'avaient été demandées au hangar 717. Là. Et puis j'ai aussi eu la chance de travailler avec un sculpteur sur bois où j'ai des pièces là-bas. Toujours au hasard des rencontres, et parce que je fais partie d'un groupe aussi qui s'appelle Atelier Révélé. Maintenant, on est passé en biennale, propose un circuit sur le Beaujolais. On ouvre nos ateliers et on travaille avec d'autres artistes.
Et de nombreux artistes, voilà. Hein, Beaujolais, plasticiens.
Ouais, oui, et c'est ça qui est intéressant. Le concept de ce groupe est intéressant. Sinon, si on ouvrait pour ouvrir nos ateliers comme on fait d'habitude, l'intérêt, c'est vraiment l'accueil de quelqu'un d'autre et le travail qu'on peut faire avec cette personne.
C'était Martine Mérieux, artiste céramiste à Jarniouf. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.